Bonjour à tous. Je vais vous raconter aujourd'hui non pas un conte, comme on le fait d'habitude, mais un mythe. Parce que, en fait, ça va être le dernier récit de la série. On va faire un petit break pour le mois d'août. Et en septembre, on va reprendre sous une autre forme et autour des mythes. Donc, c'est une façon de. Voilà, de faire une transition et de vous mettre un peu en appétit. Alors, je vous propose comme mythe un mythe qui est célèbre et qui s'appelle le mythe d'Orphée et d'Eurydice et qui date de à peu près le 6e siècle avant Jésus-Christ et qui a donné lieu d'ailleurs à tout ce qu'on appelle une école des mystères, enfin, toute une. Des pratiques, disons, un peu initiatiques à l'époque. Mais bref, voici donc l'histoire d'Orphée et d'Eurydice. On sait plus ou moins en général qu'Orphée était l'homme des mélodies envoûtantes. Il était capable de jouer les plus belles mélodies jamais entendues sur Terre. Il faut dire qu'il était fils du roi de Thrace. Or, les Thraces étaient le peuple le plus musicien de la Grèce antique. Quant à sa mère, c'était la muse de la poésie qui trouvait directement son inspiration en lien avec Apollon, le dieu des arts, de la musique et de la beauté. Et donc Orphée avait de qui tenir, n'est-ce pas? Et aussi, Orphée avait notamment appris la musique avec le dieu Apollon lui-même, et celui-ci fut tellement charmé par la musique que produisait Orphée, qu'il lui donna sa propre lyre, laquelle avait été créée par le dieu Hermès. Mais en réalité, Orphée, c'était bien plus qu'un musicien de génie, c'était un guérisseur. Orphée veut dire celui qui guérit par la lumière. Son outil de guérison, c'était les sons lumineux qu'il produisait. C'était comme si les sept cordes de sa lyre s'accordaient là-haut avec les sept sons des harmonies divines et qu'elle les faisait descendre sur terre. En tout cas, quand Orphée jouait et chantait, au gré de ses envies et de sa mélancolie, son pouvoir ne connaissait pas de limites et rien ni personne ne pouvait lui résister. Tenez, par exemple, lorsqu'il jouait de sa lyre chantante dans les bois profonds, eh bien, les bêtes féroces elles-mêmes, charmées, finissait toujours par s'étendre à ses pieds. Et puis, il éveillait, il élevait, il entraînait dans son sillage tout ce qui était vivant, les plantes, les arbres, mais aussi les rochers, les collines et les fleuves. Il savait même émouvoir les pierres. Et même le vent s'arrêtait pour l'écouter. Mais si Orphée avait ce don exceptionnel, il n'en était pas moins un jeune homme qui menait une vie dissolue et aventureuse. Un jour, il a pris la mer sur un navire appelé l'Argo, avec Jason, pour aller chercher la toison d'or. Et ma foi, Sa présence s'est révélée fort utile pendant l'expédition. L'équipage avait-il un petit coup de fatigue ? Hop ! Orphée faisait vibrer sa lyre et aussitôt, un nouveau zèle les prenait et ils se mettaient à ramer au rythme de la musique jouée par Orphée. Ou encore, une querelle menaçait-elle d'éclater ? Il tirait de son instrument des sons si apaisants. Des sons si tendres que même les plus violents oubliaient leur colère. Et c'est toujours grâce à lui que les hommes de l'équipage échappèrent aux sirènes dont le chant enchanteur qui menait à la mort les avait ensorcelés. Mais quand Orphée mesura le danger, il saisit sa lyre et il entonna une mélodie si vibrante et tellement plus belle que le chant des sirènes qu'elle étouffa leur voix, si bien que le navire put finalement reprendre son cap. C'est en revenant de cette expédition, alors qu'il se promenait dans un bois, qu'Orphée vit un jour la silhouette d'une très belle nymphe qui se reflétait dans l'eau d'un lac. Alors que jusque-là aucune jeune fille n'avait trouvé grâce à ses yeux, cette fois, il tomba immédiatement, profondément, éperdument amoureux de cette nymphe qui s'appelait Eurydice. De son côté, il est clair qu'Eurydice ne put résister très longtemps ni à son chant, ni à son charme, ni à sa personne. Leur amour devint si profond et si intense qu'ils décidèrent très vite de se marier. Et ils s'épousèrent donc. Le mariage fut une fête pour tous les invités. Chacun se réjouissait du bonheur des jeunes époux. Mais à un moment, Eurydice éprouva le besoin d'aller prendre l'air avec ses amis au bord de la forêt voisine, qui était son élément naturel. Et c'est là, à ce moment-là, qu'Eurydice marcha sur la tête d'un serpent endormi qui se réveilla et la mordit à la cheville, causant sa mort de façon instantanée. Ses amis épouvantés se mirent à hurler, si bien qu'Orphée accourut immédiatement, mais ce fut pour trouver sa bien-aimée inanimée. Il ne put laisser échapper ni une larme, ni un cri. Mais son visage, soudain déformé, exprimait sa douleur. Comment pouvait-il perdre son épouse le jour même de leurs noces? Et comment pourrait-il désormais vivre sans celle qu'il aimait si passionnément? La douleur d'Orphée fut si accablante en réalité qu'il ne put l'endurer. Il décida alors de se rendre dans le royaume des morts pour tenter d'en ramener sa bien-aimée. Il connaissait bien sûr tous les dangers qui l'attendaient. Hadès, qui régnait sur le monde des morts, était si terrible que les vivants n'osaient pas même prononcer son nom. Et il interdisait à quiconque avait pénétré dans son royaume d'en ressortir vivant. Il savait aussi que les enfers étaient peuplés de créatures terrifiantes, toutes soumises à Hadès. Et enfin, l'entrée de son royaume était gardée par le chien Cerbère. Certains disent qu'il avait 3 têtes, d'autres 50 et d'autres encore plus de 100. En tout cas, ce chien était effroyable et il restait enchaîné devant la porte des enfers pour terrifier les âmes qui cherchaient à s'y introduire. Orphée savait tout cela. Et pourtant, il décida quand même de se rendre dans le royaume des morts pour tenter d'en arracher Eurydice. C'est qu'il était persuadé en réalité que son chant, que sa musique charmerait le souverain des ombres et son épouse Perséphone, la fille de Déméter. Il osa donc, par amour, ce qu'aucun homme n'avait jamais osé jusque-là. Et il entreprit le redoutable voyage dans le monde souterrain. Et voici comment se déroula sa descente aux enfers. Cerbère, il n'eut aucun mal à l'adoucir. Une simple mélodie suffit à l'endormir. Et il put donc passer la porte sans souci. Alors il continua à faire résonner sa lyre. Et là, incroyable! Il vit s'arrêter quelques-uns des cercles vicieux qui caractérisent ce monde inférieur. Sisyphe, condamné à hisser sans cesse son rocher en haut d'une pente raide, avant de le voir redévaler la pente et de recommencer, Sisyphe donc s'arrêta un moment et s'appuya sur sa pierre. Tantale, qui se voyait sans cesse refuser l'eau juste au moment où il était prêt de se servir, n'éprouva plus de soif. Et les Danaïdes, condamnés à remplir continuellement avec de l'eau un tonneau sans fond, firent également une pause. Et pour la première fois, les visages des Furies, déesses de l'épouvante, se couvrirent de larmes. Ce qu'il découvrit ensuite n'était guère réjouissant. Les enfers étaient un monde sombre, où coulaient de larges fleuves sans fond, un monde où les menaçantes Érinies semaient la discorde, terrorisaient et punissaient à leur guise. Mais jamais Orphée ne fut inquiété. Il progressait, protégé par le son de sa lyre. Et bientôt, il vit apparaître le palais d'Hadès et de son épouse, Perséphone. Il entra sans peur et se présenta devant les dieux. « Que viens-tu faire ici ? » demanda Hadès de sa voix forte. Pour toute réponse, Orphée entonna un chant incroyablement triste. Les notes de sa lyre emplissaient toutes les salles du palais, d'abord douces et mélancoliques, puis plus fortes et plus vibrantes, semblables à la douleur du poète. L'ensemble, bien sûr, était si enchanteur que Hadès et son épouse s'approchèrent de lui afin de mieux l'entendre. Orphée, alors, formula sa demande en la chantant. Ô Dieu qui gouvernait le monde de l'ombre et du silence, leur dit-il. Toute beauté doit un jour descendre dans votre royaume, nous le savons tous. Un instant, nous nous attardons sur la terre, et puis nous vous appartenons à jamais. Mais celle que je cherche est venue à vous trop tôt. Ce que je vous demande en réalité, c'est bien peu. Si vous acceptez de me rendre Eurydice, à la fin du cours de ces années terrestres, elle sera vôtre à jamais. Et sa voix était si hypnotisante que même Hadès et Perséphone se laissèrent envoûter. Et ils consentirent à laisser partir Eurydice. Ils la firent donc revenir du silence oppressant des nuées ténébreuses de l'Hadès et ils la rendirent à Orphée, mais à une triple condition. Orphée devait précéder Eurydice. Il ne pourrait pas se retourner pour la voir, et ce, jusqu'à ce que la lumière du soleil les recouvre entièrement tous les deux, hors du monde souterrain. Orphée acquiesça avec joie. Alors, l'un derrière l'autre, c'est-à-dire, bien sûr, Eurydice derrière Orphée, ils passèrent donc les grandes portes de l'Hadès et ils gravirent le sentier en pente qui les éloignait de l'obscurité, les emmenant sur des voies qui montaient en spirale tout en côtoyant des abysses vertigineux. Ils avaient maintenant presque atteint leur but. L'ombre diminuait. Un pas encore et Orphée entra joyeux dans la lumière du jour. Eurydice, elle, s'était laissée conduire pas à pas, hors de ses ténèbres, vers la lumière. Elle avait réussi à gravir le chemin et elle était arrivée au point où elle perçut la brillante lumière du monde supérieur. Mais elle était encore dans la caverne. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'Orphée, impatient ou inquiet, car peut-être il n'entendait plus son pas, ou alors peut-être était-il confiant qu'elle était désormais en mesure de s'affranchir de lui. En tout cas, c'est à ce moment-là, donc, qu'Orphée oublia sa promesse et qu'il se retourna. Mais c'était trop tôt, c'était trop tôt. Alors il la vit dans la lumière indécise. Il lui tendit les bras, mais dans le même instant, elle glissa à nouveau dans l'ombre et il n'entendit qu'un faible mot. Adieu, avant de la voir disparaître. Que vous dire de la suite ? Orphée tenta désespérément de se précipiter à la suite d'Eurydice pour redescendre avec elle dans l'Hadès. Mais en vain, les dieux ne lui permirent pas de pénétrer une seconde fois vivant dans le monde des morts. Il dut donc retourner seul sur la terre. Et à partir de là, il erra dans les solitudes sauvages de la Thrace, chantant et pleurant sa peine, en s'accompagnant sur sa lyre. et nulle jeune fille ne put le consoler. En réalité, il renonça à la compagnie de tous les humains. Ses seuls amis, c'étaient les rochers, les rivières et les arbres. Et ils écoutaient sa musique avec ravissement. Des nymphes volages tombèrent amoureuses d'Orphée, mais lui ne céda jamais à leur tentative de séduction. Alors, pour se venger, et aussi parce que son chant triste les exaspérait, un jour, elles fondirent sur lui avec des hurlements, et leurs cris étaient tels qu'ils couvrirent le son de sa lyre. Alors Orphée se laissa tuer en criant « Je meurs, mais les dieux vivent. » Les nymphes le mirent en pièces et dispersèrent ses membres sur la terre. On dit que la terre versa des pleurs éternels sur Orphée. On dit encore que les fleuves et les rivières débordèrent des larmes qu'ils ne cessaient de verser, et que les oiseaux, les animaux et les rochers ne cessaient de se lamenter. On dit enfin que la tête et la lyre d'Orphée furent entraînées par les courants, mais elles ne sombrèrent jamais, et la lyre chantait toujours des chants sacrés. La mer les rejeta un jour sur le rivage. Un autel fut alors édifié pour y déposer la tête d'Orphée. Quant à sa lyre, elle est devenue une des constellations du ciel. Selon une autre version de la légende, Apollon, le dieu Apollon lui-même, ému par le sort d'Orphée, descendit de son Olympe pour l'emmener au firmament des musiciens. Chacun choisira sa version. En tout cas, le fait est que jamais plus on ne revit Orphée sur la terre. Mais l'âme d'Orphée et la force de sa musique portent toujours le souvenir envoûtant d'Eurydice et d'Orphée. Et il règne à jamais sur la mythologie grecque. Donc un petit mot quand même sur ce mythe. Quand on fera une émission sur le mythe, il y aura tout un temps pour décrypter vraiment le message qui est voilé dans la trame du mythe. Mais là, j'ai juste envie de vous dire que moi, je l'ai choisi parce que j'adore cette idée et cette image de cette musique, de cette vibration qui est d'ordre divine, où on dit que la lyre va chercher les harmonies dans le ciel pour les ramener sur la terre. En tout cas, ce que je constate dans le mythe, c'est que cette vibration-là, elle a un pouvoir énorme, puisqu'elle est capable d'apaiser des bêtes féroces, d'émouvoir des pierres et d'emmener des arbres avec elle. Enfin, c'est donc une puissance qui vient d'une vibration divine, mais qui apparemment est accessible, en tout cas, elle est accessible à quelqu'un comme Orphée. Et donc l'histoire d'Orphée et d'Eurydice, c'est vrai que c'est une histoire tragique à un certain niveau. On peut le voir comme une histoire d'amour contrarié, hein. On peut le voir aussi sans doute à un niveau plus spirituel où Orphée va rechercher Eurydice qui représente peut-être, hein, l'âme qui est prisonnière du monde des ténèbres. En tout cas, le récit montre bien que grâce à sa lyre, eh bien Orphée il arrive à pénétrer jusque dans le monde des ténèbres. Et chose incroyable, il va récupérer Eurydice. Hadès lui-même lui remet Eurydice, qui est quand même un exploit invraisemblable. Alors évidemment, ça se termine, on peut dire, mal, dans la mesure où, et ça reste un mystère, il se retourne au dernier moment, mais moi je préfère dire qu'en tout cas, peut-être qu'il nous ouvre un chemin. Et c'est ce chemin-là que j'avais envie de nous permettre d'apercevoir en cette période estivale. Voilà, bon été à tous et à la rentrée avec de nouveaux mythes.